Au sujet des 14 spécimens restants, nous n'avons eu que des paroles vagues, ce qui, je crois, peut se comprendre. Nous avons dit que les seuls que nous ayons trouvés étaient endommagés, mais qu'il en restait bien assez pour constater que la description de Lake était d'une précision impressionnante. Nous avons eu bien du mal à camoufler nos propres sentiments, et nous avons pris garde à ne donner aucun nombre et à ne pas préciser dans quel état nous les avons retrouvés. À ce stade, nous avions convenu de ne pas transmettre quoi que ce soit qui puisse suggérer que les hommes de Lake aient été victimes d'un accès de démence. Et pourtant, c'est ce que nous avons pensé en découvrant six monstruosités imparfaites, soigneusement inhumées debout dans des tombes de neige de 3 mètres de profondeur, sous des monticules en forme d'étoiles à 5 branches, ornées de groupes de points exactement semblables à ceux que présentaient ces étranges stéatites verdâtres venues du Mésozoïque ou du Tertiaire. Les 8 spécimens intacts mentionnés par Lake devaient avoir été emportés par le vent. Nous avons aussi pris soin de préserver la tranquillité d'esprit du public. Et c'est pourquoi Danforth et moi-même n'avons pas dit grand-chose du terrifiant voyage par-delà les montagnes le lendemain. Seul un avion allégé au maximum pouvait espérer franchir une chaîne d'une telle ampleur, ce qui nous a heureusement obligés à ne partir qu'à 2. À notre retour, à 1 heure du matin, Danforth était au bord de l'hystérie, mais il a réussi à se reprendre de façon admirable. Je n'ai eu aucun mal à lui faire promettre de ne montrer à personne nos croquis et ce que nous avions ramené dans nos poches, de ne dire aux autres que ce que nous avions convenu de divulguer, et de cacher les pellicules de nos appareils photos pour les développer tranquillement plus tard. Ainsi, tout ce pan de mon récit sera aussi nouveau pour Peabody, MacTighe, Ropes, Sherman et les autres que pour le reste du monde. À vrai dire, Danforth est encore moins loquace que moi, car il a vu, ou croit avoir vu, quelque chose qu'il refuse de décrire, même à moi. Comme on sait, notre rapport décrivait une ascension assez périlleuse, une confirmation de l'opinion de Lake selon laquelle ces sommets étaient composés d'ardoises archéennes et d'autres strates compressées extrêmement anciennes, inchangées depuis au moins le milieu de l'ère comanchienne. Un commentaire conventionnel sur la régularité des formations ressemblant à des cubes et à des remparts, la conclusion que les entrées des cavernes indiquaient des veines calcaires dissoutes, des conjectures comme quoi certaines pentes et passages permettraient à des alpinistes chevronnés d'escalader et de traverser toute la chaîne, enfin, l'observation que la mystérieuse face cachée des montagnes donnait sur un immense superplateau aussi ancien et immuable que les pics eux-mêmes. 7 000 mètres d'altitude, avec de grotesques formations rocheuses dépassant d'une fine couche de glace et des dénivellations graduelles entre la surface du plateau et les sommets les plus élevés. Toutes ces informations sont exactes à tout point de vue, et elles ont donné entière satisfaction aux hommes de notre camp. Nous avons attribué les 16 heures de notre absence, bien plus que ce qui était nécessaire par notre programme de vol, d'atterrissage, de reconnaissance et de prélèvement d'échantillons rocheux, à d'imaginaires vents contraires, avant de raconter fidèlement notre atterrissage sur les contreforts les plus éloignés. Heureusement, notre récit a paru assez concret et réaliste pour que personne n'ait envie de reproduire notre voyage. Si quelqu'un avait eu cette idée, j'aurais usé de tout mon pouvoir de persuasion pour l'en empêcher, et j'ignore ce que Danforth aurait fait de son côté. Durant notre absence, Peabody, Sherman, Ropes, MacTighe et Williamson avaient travaillé d'arrache-pied sur les 2 meilleurs avions, les rendant à nouveau utilisables malgré les ravages qu'avait subis leurs moteurs. Nous avons décidé de charger tous les avions le lendemain et de repartir le plus tôt possible vers notre ancienne base. C'était le meilleur chemin, aussi indirect soit-il, pour revenir au détroit de McMurdo, car un vol en ligne droite à travers les zones les moins connues de ce continent mort depuis des siècles pouvait s'avérer dangereux. Vu nos pertes humaines et le peu qu'il restait de notre foreuse, il était impossible de se lancer dans une exploration plus poussée du continent, et les doutes et les horreurs qui nous entouraient et que nous n'avons jamais révélés jusqu'ici nous ont fait souhaiter d'échapper le plus vite possible à ce monde de désolation et de démence hallucinée. Comme le public l'a su, notre retour au monde s'est accompli sans autre désastre. Nos avions ont atteint notre ancienne base le lendemain soir, le 27 janvier, après un vol sans histoire, et le 28, nous avons rejoint le détroit de McMurdo en 2 étapes, une déficience dans un gouvernail au beau milieu des vents furieux au-dessus de la banquise après le grand plateau, nous ayant obligés à faire escale pour réparer. 5 jours plus tard, l'Arkham et le Miskatonic, leurs équipages et équipements au complet, s'extirpaient des glaces de plus en plus épaisses et abordaient la mer de Ross avec les montagnes de la terre de Victoria obstruant l'horizon à l'ouest, sous un ciel antarctique troublé, au son de vent gémissant sur une gamme étendue de notes à vous glacer le sang. Le lendemain, nous quittions les dernières traces de terre polaire, remerciant les cieux de laisser derrière nous ce domaine maudit, hanté, où la vie et la mort, le temps et l'espace avaient formé de noires alliances blasphématoires depuis ces temps inconnus où la matière nageait et bouillonnait sur une croûte terrestre à peine refroidie. Depuis notre retour, nous avons tout fait pour décourager l'envoi de nouvelles expéditions en Antarctique, et avec une belle unanimité, avons évité de divulguer certains de nos doutes et de nos hypothèses. Même le jeune Danforth, malgré sa dépression nerveuse, n'a pas cédé ni tout raconté à ses médecins. En fait, comme je l'ai déjà dit, il y a même une chose qu'il pense être seul à avoir vue et qu'il refuse de confier même à moi, bien qu'à mon avis cela améliorerait son état psychologique s'il y consentait. Cela pourrait expliquer bien des choses, bien qu'il s'agisse peut-être uniquement des conséquences hallucinatoires d'un choc antérieur. C'est toutefois l'impression que j'en ai retirée après ces rares moments d'irresponsabilité où il me chuchote des mots sans suite, des mots qu'il répudie avec véhémence dès qu'il reprend ses esprits. Il sera bien difficile de dissuader les autres de répondre à l'appel du Grand Sud, et certains de nos efforts pourront nuire à notre cause en attirant l'attention sur nous. Nous aurions dû savoir dès le départ que la curiosité humaine est éternelle et que les résultats que nous avions annoncés suffiraient à inciter d'autres chercheurs à se lancer sur la piste de l'inconnu. Les communiqués de Lake concernant ces monstruosités biologiques ont attiré l'attention des paléontologues et des biologistes, bien que nous ayons eu la présence d'esprit de ne pas montrer les fragments que nous avions prélevés sur les spécimens enterrés ni les photos que nous en avions prises. Nous avons aussi évité de montrer les plus troublants des ossements portant des traces de blessures et les stéatites verdâtres, et Danforth et moi avons conservé à l'abri des regards les photos prises sur le superplateau au-delà de la chaîne de montagne et les papiers froissés que nous avions lissés, étudiés avec terreur et emportés dans nos poches. Mais maintenant, cette expédition Starkweather Moor est en train d'être mise sur pied, et de façon bien plus extensive que notre modeste entreprise. S'ils n'en sont pas dissuadés, ses membres atteindront le noyau central de l'Antarctique pour y forer et déterrer ce qui pourrait précipiter la fin du monde tel que nous le connaissons. Ainsi, je me dois de surmonter enfin toutes mes réticences, même au sujet de cette ultime chose sans nom au-delà des montagnes hallucinées.